RFI, il est 14h ici à Paris, 8h à Port-au-Prince. La dernière demi-heure d'RFI Midi consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Nous allons évidemment largement revenir sur l'attaque à la voiture Bélier qui a endeuillé la Nouvelle-Orléans en pleine festivité du Nouvel An. Christophe Paget est en studio, il nous dira tout sur le début de l'enquête menée en ce moment par le FBI. Nous entendrons également le témoignage du journaliste Will McGrew de Télé-Louisiane. Il s'est rendu sur place quelques heures après l'attentat et nous raconte ce qu'il a vu. Nous appellerons ensuite Franz Duval, notre confrère du Nouvelliste, pour évoquer les célébrations du 221e anniversaire d'Haïti. À suivre également le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, et vous nous parlez de la mauvaise année qui se refermait pour les producteurs de canne à sucre en Guadeloupe.
Tonnage catastrophique, richesse en sucre de la canne très médiocre. Les agriculteurs guadeloupéens espèrent que ça sera beaucoup mieux en 2025.
Benoît Ferrand, on vous retrouve tout à l'heure. Nous irons également dans cette demi-heure au Brésil, dans un quartier historique de Sao Paulo. Son nom, Libertadji, en français, et ça veut dire liberté. C'est un quartier implanté dans la ville de Sao Paulo, au Brésil. Le quartier est historiquement peuplé de personnes noires et il accueille aujourd'hui la communauté japonaise la plus importante en dehors de l'archipel. Mais avant ça, tout de suite, un point sur l'actualité internationale. Avec vous, Karine Bellicha, et on revient sur la déclaration de Joe Biden. Il s'est adressé aux Américains hier après l'attaque en Nouvelle-Orléans.
Le président a confirmé que l'assaillant qui a foncé sur la foule avec son véhicule s'était inspiré de l'État islamique. L'attentat a fait 15 morts, une trentaine de blessés. Les enquêteurs font des perquisitions et cherchent d'éventuels complices alors que le profil du tueur, Shamsuddin Jabbar, se dessine. Yelena Tomic. Nuestros migrantes, que por norma hacen... Alors, on devait entendre Yelena Tomic sur le tueur de la Nouvelle-Orléans dans un instant.
Un petit problème d'aiguillage. Je crois qu'on va poursuivre ce journal. Vous le disiez, donc, Karine Bellicha, nous sommes aux États-Unis avec cette attaque en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Orléans, pardon.
Oui, tout à fait. Et on va revenir sur le profil du tueur avec Yelena Tomic.
Le suspect âgé de 42 ans était un citoyen américain, originaire du Texas, un vétéran de l'armée américaine qui a servi de 2007 à 2020, déployé sur plusieurs théâtres de guerre, dont l'Afghanistan. Diplômé en informatique et technologie de l'information au Texas et dans l'État de Géorgie, marié à deux reprises et endetté selon des documents judiciaires. Jabbar a exercé comme cadre pour le cabinet de conseil Deloitte, puis a travaillé dans l'immobilier. Il avait un casier judiciaire pour infraction au code de la route et vol. Converti à l'islam dans sa jeunesse, Shamsuddin Jabbar s'est radicalisé ces dernières années selon des proches. Une radicalisation exacerbée selon un haut responsable de la sécurité par la guerre entre Israël et le Hamas. Le FBI confirme avoir retrouvé dans la camionnette un drapeau de l'État islamique et des explosifs. Shamsuddin Jabbar évoque son allégeance au groupe terroriste dans plusieurs vidéos postées sur sa page Facebook, effacée depuis, et dans lesquelles il évoque son projet de tuer sa famille. Reste à savoir s'il a agi seul, le FBI en doute et recherche d'éventuels complices dans plusieurs villes du Texas.
Les enquêteurs cherchent une éventuelle connexion entre l'attentat et l'explosion d'une Tesla. À Las Vegas, cette fois, un véhicule de la société d'Elon Musk a explosé devant un hôtel Trump hier soir, faisant un mort. Comme à la Nouvelle-Orléans, le véhicule a été loué sur l'application de covoiturage Turo, mais pour l'instant, aucun lien formel n'a été établi.
Et ces attaques interviennent à quelques jours de l'entrée en fonction de Donald Trump.
Le président élu n'a pas hésité à faire un lien avec l'immigration clandestine, alors que le tueur de la Nouvelle-Orléans est un ancien militaire américain. Donald Trump promet toujours des expulsions de masse dès son arrivée à la Maison-Blanche. Bonjour Suzanne Marion.
Bonjour à tous.
La présidente du Honduras a décidé de monter au créneau. Elle s'inquiète pour les 2 millions de Honduriens installés aux États-Unis.
Si les expulsions prévues par Donald Trump sont mises en œuvre, elles pourraient concerner 250 000 Honduriens, selon les autorités du pays d'Amérique centrale. Des immigrés qui contribuent au développement de l'économie du Honduras, mais aussi à celle des États-Unis, comme le rappelle la présidente Xiomara Castro.
Nuestros migrantes, que por norma Nos migrants apportent généralement une grande contribution à l'économie américaine. Face à l'hypothèse d'une expulsion massive de notre peuple, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis.
Xiomara Castro, qui dit espérer un dialogue constructif et amical avec la future administration Trump, menace donc à mot couvert.
Ils ont maintenu des bases sur notre territoire sans payer un centime pendant des décennies. En cas d'attitude hostile, ces bases pourraient perdre toute raison d'être pour le Honduras.
Environ 1000 ressortissants américains, civils et militaires, vivent sur la base José Enrique Soto Cano, construite en 1982 dans le centre du pays. Elle joue un rôle clé dans le commandement sud des États-Unis, utilisé pour des opérations de lutte contre le crime organisé ou de déploiement d'aide humanitaire.
Suzanne Marion du service international d'RFI.
Prenons à présent la direction de la Corée du Sud où le président déchu refuse toujours de se rendre.
Yoon Suk-yeol est pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il est poursuivi pour rébellion mais il a promis à ses partisans de se battre jusqu'au bout. Début décembre, il avait provoqué la stupeur en tentant d'imposer la loi martiale. Les parlementaires avaient réussi à s'y opposer. Yoon Suk-yeol a été destitué mais la Cour constitutionnelle doit encore se prononcer. Pour le moment, il est toujours retranché dans sa résidence, soutenu par des manifestants aux positions ultra-conservatrices qui sont venus pour le défendre. Notre correspondante Camille Ruiz les a rencontrés.
Devant la résidence officielle du président, les manifestants agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Une bannière appelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Kang Tae, 60 ans, est venu s'opposer au mandat d'arrêt délivré contre Yoon Suk-yeol.
Si ce processus illégal nous enlève notre président, nous prend notre liberté, nous avons le devoir de l'arrêter, même s'il faut aller se battre pour ça. C'est ce que je suis venu faire ici. S'il y a un prix à payer pour défendre le président Yoon Suk-yeol, je le paierai.
Pom Sok, entrée militaire et chapeau, se tient parmi les manifestants.
Notre peuple doit s'opposer à cette arrestation et la faire échouer. Si on ne réussit pas, notre pays va tomber dans le communisme. Nous faisons face à un criminel de guerre, menteur, tyrannique, Lee Jae-myung, qui sous la direction de la Chine et de la Corée du Nord essaye de devenir président de notre pays.
L'ancien soldat en est convaincu, Lee Jae-myung, leader du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, organise un complot avec l'aide de Pékin et Pyongyang. Une théorie sans fondement véhiculée par les youtubeurs sud-coréens d'extrême droite, d'après les médias locaux. Sur les coups de 17h, heure locale, une trentaine de manifestants franchissent une barrière de police, les forces de l'ordre disperse le groupe de force. Mercredi 1er janvier, les enquêteurs ont prévenu toute personne qui s'oppose à l'arrestation du président Yoon Suk-yeol pourra être poursuivie. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Et puis cette nouvelle preuve du réchauffement climatique, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Chine depuis 1961, date du début des relevés.
Et les experts du GIEC scrutent les prévisions pour 2025, en particulier les chiffres des émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait qu'elles commencent à décroître cette année pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme le prévoit l'accord de Paris. Mais les chercheurs restent prudents. Pauline Glaise.
La Chine s'est engagée à atteindre son pic d'ici 2030, mais une partie des experts estime que cela pourrait arriver plus vite que prévu. Pour 2024, la croissance des émissions de dioxyde de carbone issues des combustibles fossiles pourrait être quasi nulle. Au deuxième trimestre, les émissions de CO2 ont d'ailleurs légèrement baissé selon Carbon Brief. La crise du marché immobilier l'explique en partie. Cela a fait chuter la production d'acier et de ciment, deux matériaux très émetteurs. Par ailleurs, les énergies éoliennes et solaires sont en pleine expansion. Il n'empêche, selon l'Agence internationale de l'énergie, la part du charbon dans le mix électrique de la Chine devrait encore avoir augmenté en 2024. Certes, le nombre d'autorisations de nouvelles centrales à charbon est en chute libre, mais de nouvelles unités sont toujours construites. Cela reste donc très incertain. Ensuite, si pic il y a, restera à voir la nouvelle dynamique. Les émissions vont-elles baisser ou simplement se stabiliser ? Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, pour que le monde respecte l'accord de Paris, il faudra que la Chine baisse ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici 2035.
Pauline Glaise du service environnement d'RFI. Et puis un mot du Vendée Globe pour refermer ce journal. Johan Richaume est toujours deuxième, mais il talonne désormais Charlie Dalin. L'avance du leader de la course autour du monde en solitaire a fondu pendant la nuit. Le duel se poursuit au large du Brésil. Loin derrière, le peloton navigue vers le Cap Horn. Voilà Simon, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha pour le journal. Merci à vous. RFI.
The World's Voices.
Nous l'évoquions dans le journal, la Nouvelle-Orléans et ses habitants sous le choc après l'attaque à la voiture Bélier dans le quartier de la ville. Attaque qui a fait, selon le dernier bilan, 15 morts et une trentaine de blessés. Je n'oublierai jamais les cris, raconte cette témoin au Washington Post. Elle est en larmes devant la caméra du quotidien. Tout le monde se planquait et courait. Il y avait des gens inconscients. Personne ne savait ce qui se passait. Voilà ce que raconte cette témoin donc au Washington Post. La stupéfaction donc générale à la Nouvelle-Orléans. Et c'est dans cette ambiance que Will McGrew s'est rendu donc dans la ville meurtrie. Journaliste de télé Louisiane, il s'est rendu sur place seulement quelques heures après l'attentat.
On n'a pas vécu quelque chose comme ça ici à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai qu'on avait quelques préparations, mais normalement, on ne pense pas à un attentat planifié comme ça. Donc, le vieux carré, c'est vraiment un emblème en fait, de la ville de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ça renforce l'impact émotif de l'attentat pour les Néo-Orléanais. Je suis maintenant dans le centre-ville jusqu'à côté. Et c'est vraiment, tu t'entourais de police et c'est vraiment tu bloqué. Et c'est pour nous, c'est vraiment ironique parce que c'est normalement le site qui est le plus festif en ville. C'est vraiment inquiétant et c'est le choc, mais aussi un peu un calme parce qu'on ne sait pas encore comment réagir à cet événement.
C'est un lieu de fête, c'est aussi un lieu inclusif où tout le monde pouvait échanger, se retrouver. C'est pour ça aussi que cet endroit était visé, selon vous ?
Oui, peut-être. On ne sait pas encore, mais c'est ça ce qui est triste, c'est que la Nouvelle-Orléans a toujours été, la Louisiane en général, un carrefour de cultures différentes. Et c'est vrai même parce que la Nouvelle-Orléans était catholique, mais à la fois tolérante. Ça a toujours été un endroit d'accueil pour des minorités juives et puis plus tard musulmanes et autres. Et cette diversité, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, mais c'est aussi peut-être ce qui a été attaqué, cette ouverture à toute religion et toute couleur. On ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé assez vite, les forces de sécurité, que c'était un attentat terroriste. Ça doit être confirmé à 100%, mais le drapeau, évidemment, du Daesh qui a été trouvé dans le véhicule qu'ils ont utilisé est une preuve assez importante pour commencer.
La Nouvelle-Orléans devait accueillir le soir de l'attentat un match de football très important. Il a été annulé. Il y a bientôt le Super Bowl qui sera organisé à la Nouvelle-Orléans. C'est également un événement majeur. Est-ce que la ville va pouvoir accueillir tout simplement cet événement après ce qui s'est passé ?
Ça reste vraiment à voir, en fait. On espère que ça va être possible. Mais c'est inquiétant, en fait, ça a toujours été une problématique qui n'a pas encore été traitée par les autorités, et c'est que ces cibles faibles, ces soft targets, comme on dit en anglais, sont vraiment pas assez préparées, assez protégées pour des attentats terroristes. Heureusement, on n'a pas dû faire face à cette problématique avant cet événement en Louisiane. Et désormais, on va être forcé de le faire. Et c'est vraiment une grande question parce que nous, les festivités comme ça, ça, c'est notre manière de vivre. C'est vraiment quelque chose qui arrive chaque jour, chaque semaine en Louisiane. Et désormais, il faut penser comment est-ce qu'on peut et est-ce que c'est possible de protéger chacun de ces événements. On ne sait pas comment on peut vraiment être sûr qu'il y aura de la sécurité là-bas, dans le Dôme ou dans n'importe quel autre événement dans le futur.
Et ce, alors que la Nouvelle-Orléans accueillera aussi, comme chaque année, les festivités du carnaval au début du mois de mars. C'était Willy McGraw, journaliste de Télé Louisiane, joint par Daniel Vallot. Évidemment, la presse des États-Unis revient largement sur cette attaque aujourd'hui. Christophe Paget, que peut-on lire en une ?
New Year's Evil, le diable du nouvel an, titre en une le tabloïd New York Post, un jeu de mots avec New Year's Eve, le réveillon du nouvel an. Sous le titre en photo, le pick-up du terroriste. Les festivités tournent à l'horreur à la Nouvelle-Orléans, titre de son côté le New York Times, au-dessus d'un cliché de Bourbon Street, bloqué et arpenté par les enquêteurs. De son côté, le Los Angeles Times fait malgré tout sa une sur sa propre parade de la rose, la 136e, tout en soulignant que les milliers de personnes qui y participaient avaient une pensée pour ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans.
Et les informations quant à l'enquête sont évidemment peu nombreuses pour le moment dans la presse. Le FBI a en tout cas désormais lancé une enquête et ce juste après le drame. Des perquisitions sont en cours dans plusieurs villes du Texas. Il s'agit donc de savoir si le suspect a agi seul ou pas. Suspect en tout cas au sujet duquel le président américain a donné quelques précisions hier lors de son allocution. Joe Biden.
Le FBI m'a informé que le tueur était un citoyen américain, né au Texas. Il a servi dans l'armée américaine pendant de nombreuses années. Il a également servi dans la réserve de l'armée. Le FBI m'a également rapporté que quelques heures seulement avant l'attaque, il a posté des vidéos sur les réseaux sociaux indiquant qu'il était inspiré par le groupe État islamique, exprimant un désir de tuer, un désir de tuer. Le drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans son véhicule qu'il a loué pour mener cette attaque.
Et aux États-Unis, Christophe, suite à cette attaque, il y a aussi une polémique sur les barrières de sécurité.
The Advocate, un des quotidiens locaux de Louisiane, se fait l'écho d'interrogations sur ces barrières qui servent précisément à prévenir ce genre d'attaque, mais qui n'étaient pas sur site hier, car enlevées pour réparation, ce qui a provoqué des critiques virulentes. Mais le quotidien se demande si ces barrières auraient été vraiment efficaces, puisque pour accéder à Bourbon Street, Shamsuddin Jabbar a contourné un large patrouilleur et est monté sur le trottoir. Et comme l'a souligné ce mercredi la police, les barrières, lorsqu'elles sont en place, ne s'étendent pas au trottoir. Nous avons un problème et nous allons le résoudre, a reconnu le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry.
Et hier, Christophe, il y a eu une autre attaque, cette fois à Las Vegas.
Les enquêteurs sont à la recherche de liens entre les deux attaques, rapporte Politico. À Las Vegas, c'est une Tesla Cybertruck remplie de bidons d'essence et de mortiers de feux d'artifice qui a explosé, tuant le conducteur et blessant légèrement 7 passants, raconte le LA Times. L'explosion ayant eu lieu devant un hôtel Trump, et la police a indiqué qu'elle enquêtait aussi pour savoir si ce choix était délibéré, sachant que le patron de Tesla, Elon Musk, est un très proche conseiller du président élu.
Donald Trump qui s'est exprimé sur l'attaque qui a visé la Nouvelle-Orléans.
Oui, Politico cite le post du président hier sur son réseau Truth Social. « Quand j'ai dit que les criminels qui viennent sont bien pires que ceux que nous avons dans notre pays, les démocrates et les médias fake news ont constamment réfuté mes propos, mais cela s'avère vrai. » Le président élu a donc suggéré à tort que le suspect était un immigré, souligne le New York Times, puisqu'il s'est avéré que Shamsuddin Jabbar était né aux États-Unis et qu'il était même un vétéran de l'armée américaine.
Un premier tour de la presse américaine. Merci à vous, Christophe Paget.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
8h passées de 17 minutes à Port-au-Prince, Haïti, qui célébrait hier le 221e anniversaire de son indépendance. C'était le 1er janvier 1804. Dans son discours, hier, Leslie Voltaire, l'actuel président du Conseil présidentiel de transition, en a profité pour réitérer ce qu'il avait déjà formulé fin septembre à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il le martèle, la France, ancienne puissance colonisatrice, doit rembourser Haïti de la dette de l'indépendance, l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros que Paris avait exigé pour compenser la perte du territoire.
Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect.
Le président du Conseil présidentiel de transition haïtien, Leslie Voltaire, alors que d'après une enquête du New York Times, le montant total des sommes versées par Haïti à la France au cours du 19e siècle s'élèverait en valeur actuelle à plus de 520 millions d'euros. Et nous revenons sur les cérémonies hier justement qui marquaient la fête de l'indépendance haïtienne avec vous, Franz Duval, bonjour.
Bonjour Simon.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, en ligne depuis Port-au-Prince, merci à vous. Franz, outre la question de la dette, le Premier ministre a fait hier d'autres promesses lors de la cérémonie.
Alors les promesses, ce sont les mêmes promesses qui reviennent depuis des années, à chaque 1er janvier. On a promis aux Haïtiens de la sécurité, on a promis aux Haïtiens également que des élections vont se tenir bientôt. En principe, c'est à la fin de l'année que les élections sont attendues. Et aussi, on a promis une amélioration de la vie. Mais il faut dire que d'année en année, de 1er janvier en 1er janvier, on recule sur tous ces fronts. Et malheureusement, la sécurité, qui est la chose la plus attendue pour les Haïtiens, 2024 n'a pas été une bonne année et rien n'indique que 2025 sera meilleur.
Le défi des élections et de la sécurité. Donc, France, alors qu'a été publié le cadre légal du Conseil national de sécurité, c'est encore une nouvelle structure. À quoi doit-elle servir précisément ?
À faire des réunions, à faire des propositions, à essayer de trouver des options. Mais en réalité, ce Conseil national de sécurité, c'est un gadget en plus. Et ça ne va pas améliorer les choses. Et pour le moment, on ne connaît même pas qui va faire partie de ce Conseil. Et c'est plutôt une loi qui a été publiée, mais ça n'a pas de suite pour le moment.
Et la sécurité, France, c'est aussi la force multinationale emmenée par les Kenyans. De nouvelles troupes étaient censées arriver avant le 31 décembre. Qu'en est-il finalement ?
On les attendait depuis octobre, on les a attendus jusqu'au 31 décembre, personne n'est arrivé. Il était question de 600 Kenyans qui devaient venir, il y avait aussi des Guatémaltèques, 150 qui devaient venir. Il y avait un bateau des Bahamas qui devait être dans la rade de Port-au-Prince, on ne l'a pas vu non plus. Et il y avait aussi des Salvadoriens, on les avait promis tout ça pour avant le 31 décembre. Pour le moment, les Haïtiens n'ont rien vu, personne n'est venu.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, merci à vous d'avoir été avec nous. RFI, 14h passé de 21 minutes ici à Paris. On ouvre à nouveau la presse américaine avec vous, Christophe. On en parlait dans le journal. La présidente du Honduras menace de fermer les bases américaines sur son sol si Donald Trump expulse en masse ses ressortissants.
Oui, par exemple, la base de Palmerola, dans le centre du pays, construite au début des années 80 pour combattre le communisme en Amérique latine, rappelle le site Confidential HNA. La présidente souligne au passage, note El Tiempo, que les États-Unis ne versent pas d'argent pour avoir des bases dans le pays. La Prensa rapporte que la menace de la présidente a été critiquée par son ancien vice-président, Salvador Nasrallah, qui estime que cette décision pourrait amener à une rupture des relations avec les États-Unis, notre principal partenaire stratégique, et déstabiliser la région. Toujours selon Salvador Nasrallah, le gouvernement réfléchirait même à livrer la base de Palmorella à la Chine.
À Christophe Parget, merci beaucoup. Nous mettons maintenant le cap sur le plus grand quartier japonais du monde. Son nom, l'Hypertaji, il est implanté dans la ville de Sao Paulo au Brésil. Le quartier, que l'on appelle donc Liberté en français, accueille la communauté japonaise la plus importante en dehors de l'archipel. On y trouve donc des supermarchés orientaux et beaucoup de restaurants de sushi ou d'autres mets asiatiques. Et pourtant, le quartier était historiquement peuplé de personnes noires, esclaves ou libérées, et ce avant même l'indépendance du Brésil en 1822. Une histoire peu connue, et ce encore aujourd'hui. Reportage de notre correspondante Sarah Cozzolino.
Japon Liberté. Quand le nom de la station de métro Liberdade s'est vu précédé du mot Japon en 2018, de nombreuses critiques se sont élevées.
C'est une façon de délimiter ce territoire comme s'il appartenait à la communauté japonaise, alors qu'en réalité, c'est un territoire multiculturel et multiethnique, notamment avec la présence de la population noire qui y vivait et qui vit encore aujourd'hui.
Philippe Arthur est historien et noir. Il s'est intéressé à l'histoire du quartier et nous emmène sur la place de Liberdade à la sortie du métro. La banque a une façade imitant un temple japonais. Des petits stands vendent des souvenirs, de la nourriture et des habits de style chinois ou japonais, tandis que les feux pour piétons, les poubelles rouges et les éclairages publics en forme de lanterne japonaise nous donnent l'impression d'une version orientale de Disney, bien loin de l'histoire du quartier.
C'est sur cette place que se trouvait la potence de la ville. Nous ne pouvons pas oublier que ceux qui commettaient des crimes, et notamment les personnes noires, étaient pendues ici.
Aujourd'hui, le seul signe de l'héritage noir du quartier est une statue de petite taille sans piédestal et dont la plaque se trouve à même le sol sur la place. Il s'agit de Madrina Eunice, fondatrice de la première école de samba de carnaval de la ville. Mais Philippe nous rappelle que le nom même de la place vient de l'histoire de Francisco José das Chagas, surnommé Chaguinhas, un militaire noir brésilien. À la veille de l'indépendance du Brésil, il a mené une révolte contre les retards de paiement des militaires à Santos. En 1821, il est condamné à mort à Sao Paulo.
La première fois qu'il est envoyé à la potence, la corde se rompt. et la population commence à crier « Liberté, liberté, liberté !» La deuxième fois, la corde se rompt à nouveau, et la troisième fois aussi. Puis, la légende dit qu'après ça, il meurt roué de coups.
Devenu un symbole de la lutte noire, Chaguigne s'est enterré dans le cimetière des affligés sur lequel sont aujourd'hui dressés des immeubles. À 5 minutes de la place, en descendant la rue, il reste encore la chapelle des affligés. Située dans une impasse, elle n'est indiquée sur aucune plaque. Au mois de novembre, les lanternes japonisantes qui masquaient la chapelle ont été retirées. Une victoire après 6 ans de lutte menée de front par l'UNAMCA, l'Union des Amis de la Chapelle des Affligés. Pour sa présidente Élise Alves, la bataille est loin d'être terminée.
Aujourd'hui, nous sommes face à un autre problème. La mairie a décidé d'installer un marché d'artisanat dans cette impasse, ce qui empêche d'accéder à la chapelle. La plupart du temps, les visiteurs qui viennent dans ce quartier ne parviennent même pas à voir la chapelle au bout de la rue.
Les défenseurs de la chapelle attendent encore sa rénovation et la construction d'un mémorial des affligés prévu dans les prochaines années. De retour sur la place de Liberdade, un événement musical rend hommage au sambiste Geraldo Filme. Les militants du mouvement noir se réunissent devant la statue de Madrinha Unis. C'est là que nous retrouvons Marília Martz. Cette architecte de formation a réalisé son travail de fin d'études sur le quartier de Liberdade en 2017. Avant ça, la jeune femme noire passionnée de manga et de culture japonaise ne connaissait que cet aspect du quartier. Avec sa bande dessinée intitulée Indivisible, elle raconte l'histoire multiculturelle du lieu.
Tout ça est une conséquence du choix des pouvoirs publics. Qui dessine? Qui planifie la ville? L'effacement de la mémoire noire est une décision qui vient de qui? Dans mon travail, je ne voulais justement pas illustrer un différent entre deux cultures. Ce lieu a une valeur pour moi, tout comme il en a pour l'immigrant japonais arrivé ici. Il n'y a pas de hiérarchie d'importance entre les cultures, mais l'effacement de la mémoire noire est un phénomène mondial.
Sa BD lui a valu plusieurs prix, mais le plus valorisant à ses yeux est l'inscription de son œuvre dans les programmes scolaires pour que les enfants brésiliens connaissent l'histoire de ce quartier. Sara Cozzolino, Sao Paulo, RFI.
Place à présent au journal des Outre-mer et on s'intéresse à l'actualité des Caraïbes avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et à la une de votre journal, 2024, une année à oublier pour les producteurs de canne à sucre en Guadeloupe.
Les planteurs de canne à sucre espèrent donc un renouveau en 2025. Josiane Champion.
315 000 tonnes de canne seulement broyées en 2024 par les sucreries de Guadeloupe, un record à la baisse. C'est moins qu'en 1990, après le cyclone Hugo, ou en 1995, après la violente sécheresse de 1994, les deux seules autres années où la production a été inférieure à 400 000 tonnes. Cette fois, pas de grosse catastrophe climatique, mais un long conflit mené par une partie des planteurs pour réclamer une augmentation du prix de la tonne de canne, notamment sur la part industrielle. Démarré le 2 mai avec 2 mois de retard, la campagne sucrière à Gardel subit les pluies précoces et intenses. Elle est stoppée le 20 juillet. 40% des cannes, soit 180 000 tonnes, restent debout, du jamais vu. Et le peu de cannes reçues présente des taux de richesse saccharine et de pureté si faibles que le rendement sucrier est lui aussi le plus mauvais jamais enregistré par l'usine. La Guadeloupe, Marie-Galante comprise, n'a produit l'an dernier que 18 000 tonnes de sucre, moitié moins qu'en 2023. Pour 2025, les acteurs de la filière visent un démarrage de la campagne début février sur la base d'un nouveau modèle économique avec un mode de calcul de la richesse saccharine en cours de révision et un plan de relance sur 3 ans.
Un tout autre sujet, les traditions en Martinique, les traditions du début d'année sont-elles toujours suivies? Reportage Mike Irasque.
J'ai pas nettoyé ma maison, j'ai pas lavé mes vêtements sales, puisqu'on doit laver des vêtements sales. Je n'ai rien fait.
Cette bédieuse rencontrée sur la plage de la Française assume ses choix. Les traditions censées apporter des bienfaits durant l'année, elle n'y croit plus. Pour Marie, le poids des habitudes a pris le pas sur la conviction des bienfaits apportés par ces traditions.
Comme c'est dans mes habitudes, donc je continue de le faire, comme je disais, par habitude, et non pas parce que j'aurais noté des améliorations particulières, quoi. On le fait dans l'espoir que, bon, les choses vont mieux se passer, mais il n'empêche que dans la réalité, on ne voit rien de concret vraiment.
Et c'est Marc qui décrit peut-être le mieux ce qui motive et nourrit toutes ces traditions, à savoir l'espérance.
Les hommes et les femmes
ont besoin de s'appuyer sur un rituel, une pratique, une habitude qu'ils vont mettre en évidence en début de leur année pour porter bonheur, pour porter chance, qu'on soit chrétien, qu'on soit animiste, quelle que soit sa pratique spirituelle. La chose est que nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose pour démarrer notre année.
Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand, bon après-midi à vous également. C'est ainsi que se referme cette édition d'RFI Midi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans 30 minutes maintenant, un nouveau journal consacré à l'actualité internationale. De mon côté, je vous retrouve demain à midi 55 heures de Paris pour une nouvelle édition d'RFI Midi. Merci à vous.